VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, merci de démarrer la journée à l'écoute de VOA Afrique. Au micro ce matin, Nicolas Pineau et Anne Albertson à la une de notre émission.
Les États d'Afrique centrale mettent 50 milliards de francs CFA sur la table pour éradiquer Boko Haram.
Ces dernières semaines ont été marquées non seulement par la poursuite des attaques de Boko Haram au Nigeria, mais également par leur extension à d'autres pays de la région. Cette situation ne peut perdurer.
Levée des sanctions européennes contre le Zimbabwe, les sanctions contre Robert Mugabe demeurent.
Cessez-le-feu fragile dans l'est de l'Ukraine.
La propreté de Bamako en débat. La ville a passé un contrat de 9 milliards de francs CFA par an avec une entreprise marocaine. Et ça ne fait pas que des euros.
Mais moi, je promets au-delà de la prestation une qualité. Dans une semaine, déjà, on va voir les grandes places déjà propres.
Sans oublier la Minute Éco et le Journal des Sports, les jeunes Maliens en tête de leur groupe B à la CAN des moins de 17 ans au Niger. Mais tout d'abord sur VOA Afrique, le journal.
Les chefs d'État d'Afrique centrale s'engagent donc à éradiquer Boko Haram. Lors d'un sommet extraordinaire de la CEAC à Yaoundé, les États se sont engagés à hauteur de 50 milliards de francs CFA. Une stratégie commune a aussi été adoptée par l'organisation régionale, comme nous l'explique notre correspondant Jules Lobo.
50 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions de dollars, c'est la somme à mobiliser par les différents États membres pour faire face à la menace Boko Haram. La mise sur pied d'une force multinationale et la création d'un fonds de solidarité sont entre autres mesures prises pour combattre la secte islamiste. Hamad Alami, secrétaire général de la CEAC.
Cette session extraordinaire vise effectivement à mettre en place la stratégie collective de la CAC de lutte contre le groupe Boko Haram.
Pour l'Union africaine, la situation qui prévaut sur le terrain ne saurait perdurer. Jean-Marie Mokolo, représentant de l'Union africaine aux assises de Yaoundé.
Ces dernières semaines ont été marquées non seulement par la poursuite des attaques de Boko Haram au Nigeria, mais également par leur extension à d'autres pays de la région. Cette situation ne peut perdurer.
La synergie d'action est nécessaire avec l'Afrique de l'Ouest. Idriss Déby Idno, président du Tchad et président en exercice de la CEAC.
Je peux vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration.
Les chefs d'État et de gouvernement réunis à Yaoundé ont trouvé la nécessité de conjuguer leurs efforts pour bouter hors d'état de nuire Boko Haram. Yaoundé, Jules Lobo pour la Voix de l'Amérique.
Sachez aussi que l'armée camerounaise affirme avoir perdu 5 soldats au cours de combats avec Boko Haram. 86 djihadistes auraient également été tués dans ces affrontements dans l'extrême nord du Cameroun. Cité par l'agence France Presse, le colonel Joseph Nouma explique par ailleurs que 1000 personnes sont actuellement écrouées à la prison de Maroua au Cameroun pour des liens supposés avec Boko Haram.
Et toujours dans la lutte contre le terrorisme, les autorités nigériennes affirment avoir arrêté 160 personnes soupçonnées d'être liées à Boko Haram dans la région de Diffa. C'est ce qu'a fait savoir Adili Toro, porte-parole de la police nationale. Ce mardi, plusieurs marches sont organisées au Niger à l'appel du gouvernement pour dénoncer le terrorisme.
À Bangui, le Conseil national de transition a adopté hier par 83 voix l'avant-projet de constitution. Le texte qui prévoit un régime semi-présidentiel doit maintenant être soumis au gouvernement.
36 personnes ont été condamnées, dont 14 d'entre elles à un an de prison ferme pour coups et blessures à Forécaria en Guinée. Selon l'AFP, elles ont été reconnues coupables de l'attaque contre une mission de lutte contre Ebola conduite par des responsables guinéens et Médecins sans frontières. Au Libéria voisin, c'était la rentrée des classes hier après des mois de fermeture des écoles suite à l'épidémie d'Ebola. Félix Yepassis Zembrou.
Des centaines de jeunes Libériens ont repris les cours après 6 mois de fermeture des écoles dans le cadre de la lutte contre l'Ebola. Cette décision se justifie, explique Rosemary Gray, directrice d'école à Monrovia, la capitale libérienne. Si nous attendons le jour où l'Ebola est éradiqué avant de rouvrir les écoles, je ne pense pas que nous y arriverions. Car maintenant, j'entends dire qu'il y a de nouveaux foyers. Personne ne sait jusqu'où cela ira, a expliqué Mme Gray. L'Ebola a tué plus de 9000 personnes dans les 3 pays. La propagation du virus a ralenti, mais l'Organisation mondiale de la santé a appelé les populations locales à la vigilance suite à une récente hausse du nombre de nouveaux cas. Dans son dernier bilan, l'agence onusienne a dénombré 183 nouveaux cas dans la région, 87 en Sierra Leone, 76 au Libéria et 20 en Guinée.
À Kinshasa, une centaine d'organisations de défense des droits de l'homme demandent la libération d'un militant associatif. Christopher Ngoy, poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État, a été arrêté depuis le 21 janvier et détenu à Makala, la prison de Kinshasa. Les ONG demandent dans un communiqué sa libération, estimant arbitraire son arrestation et illégale sa détention.
Le Zimbabwe a salué la reprise de l'aide directe de l'Union européenne, suspendue depuis 2002. Harare exige à présent la levée immédiate des sanctions prises à l'encontre du couple présidentiel. Chérubin Dorsil nous en dit plus.
L'aide annoncée par l'Union européenne totalise 270 millions de dollars. Elle servira au financement de divers projets dans l'agriculture, la santé, la bonne gouvernance pendant les 6 prochaines années. À Harare, plusieurs analystes ont relevé l'importance de la décision de l'UE, nous dit Ndimiake Mwakalielie, responsable des programmes de la Voix de l'Amérique pour le Zimbabwe. Les donateurs fournissaient de l'assistance aux ONG, explique-t-elle. Maintenant, c'est le gouvernement qui recevra l'argent pour l'acheminer dans les secteurs de son choix. C'est très significatif. Depuis 2002, le Zimbabwe est sous sanctions à cause des abus de droits humains et de la corruption reprochés au chef de l'État zimbabwéen et ses alliés. Des sanctions souvent brandies par Mugabe comme la raison première des déboires du Zimbabwe. Malgré la mesure annoncée hier, les sanctions ciblées contre le président Mugabe et son épouse Grace resteront en vigueur.
Et pour ceux qui nous écoutent via leur téléphone portable, sachez que le nombre de smartphones devrait doubler d'ici 2017 sur le continent africain pour dépasser les 350 millions d'appareils connectés. C'est ce que révèle une étude du cabinet Deloitte qui affirme que cette explosion est due à la percée des téléphones à bas prix. Le marché du smartphone va connaître une croissance de plus de 40% en 2015 avec 70 millions de smartphones vendus en Afrique.
Washington, la Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le retrait des armes lourdes du front dans l'est de l'Ukraine n'a toujours pas débuté ce matin. L'Union européenne et les États-Unis appellent à l'arrêt total des combats. Washington a exprimé ses inquiétudes les plus graves quant à la détérioration de la situation à Debaltseve et dans ses environs, selon un communiqué du Département d'État. Des précisions avec Michel Joseph.
Les séparatistes ont proposé aux soldats ukrainiens un couloir leur permettant de quitter Debaltseve à condition que ces derniers déposent les armes. Un porte-parole militaire ukrainien a dit à l'agence Reuters avoir rejeté cette proposition, ajoutant que l'accord de cessez-le-feu de la semaine dernière place Debaltseve en territoire ukrainien. Les rebelles ne cachent pas leur volonté de conquérir cette ville et sa voie ferrée qui relie les bastions séparatistes de Luhansk et Donetsk. La trêve négociée par les leaders ukrainiens, français, allemands et russes prévoit le retrait mardi des armes lourdes de la ligne de front, mais aucun des deux camps ne semble disposé à le faire. Entre-temps, l'Union européenne a ajouté 19 personnes, y compris un ministre adjoint russe de la Défense et 9 entités à sa liste des sanctions en rapport avec le conflit ukrainien.
Barack Obama a exprimé sa solidarité avec le Danemark après les 2 attaques perpétrées à Copenhague durant le week-end. Au cours d'une conversation téléphonique, le président américain et la première ministre danoise Helle Thorning-Schmidt se sont accordés sur la nécessité d'affronter ensemble les attaques contre la liberté d'expression et la violence antisémite. Et puis hier, 30 000 Danois ont rendu hommage à Copenhague aux victimes de la double attaque qui ont fait, je vous le rappelle, 2 morts et 5 blessés ce week-end.
De ce côté-ci de l'Atlantique, le nord-est du pays fait face à des températures polaires. 50 millions de personnes doivent subir des températures bien en dessous des normales de saison. Hier, il a fait par exemple moins 28 degrés Celsius en Pennsylvanie et moins 22 à Cleveland. La neige est aussi de la partie. Près de 1500 vols ont été annulés hier dans le ciel américain. Et ce mardi, le gouvernement fédéral est fermé ici à Washington.
On reste aux États-Unis, en Caroline du Nord. Un grand jury a mis en accusation Craig Stephen Hicks. Cet homme de 46 ans a abattu 3 étudiants musulmans. La justice américaine n'a toujours pas décidé si le tireur avait eu des motivations racistes lors de son crime. Vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique. Parlons à présent économie, c'est la Minute Éco présenté ce matin par Nathalie Barge.
Évasion fiscale, scandale bancaire, marché public et multinational, réforme juridique en matière commerciale, telles sont certaines des principales préoccupations quant à l'amélioration de l'environnement des affaires en Afrique. Au Sénégal, depuis le vote récent de la loi sur les partenariats publics-privés, les concertations vont bon train pour peaufiner les textes relatifs à l'application du nouveau code voué à ne plus laisser la part belle aux grandes entreprises étrangères. Ces dernières écrasaient les entreprises nationales, a dit à la Voix de l'Amérique le directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal, Morta Lacane.
On demande à toutes les entreprises qui veulent intervenir au Sénégal d'avoir des partenaires avec des entreprises sénégalaises. Nous travaillons sur les textes et nous pensons simplement que ceci permettra de faire travailler effectivement nos entrepreneurs dans tous les grands travaux parce que nous avons des pays qui sont en chantier.
L'Union européenne a octroyé au Zimbabwe la somme de 234 millions d'euros sur 6 ans pour les secteurs de l'agriculture et de la santé. Le pays est frappé de sanctions économiques depuis plus d'une décennie. La convention a été signée ce lundi à Harare. Les sanctions de 2002 avaient provoqué une crise économique sans précédent avec une hausse des prix de l'ordre de 4000% au plus fort de la crise en 2006. Selon Point Afrique, citant le PDG de Côte d'Ivoire Tourisme, Jean-Marie Sommet, le tourisme a redémarré dans le pays. Plus de 470 000 touristes internationaux ont été enregistrés fin 2014, alors qu'ils n'étaient que 269 000 en 2011 et 380 000 en 2013, ce qui représente 43% de croissance moyenne sur 3 ans.
Place au sport, à présent sur VOA Afrique. On commence par du football, la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se poursuit au Niger. Le Mali prend la tête du groupe B après sa large victoire 3 buts à 1 face au Cameroun. Les Aiglons sont seuls en tête ce matin puisque les Ivoiriens et les Sud-Africains se sont séparés sur un match nul de partout. Pas de match aujourd'hui, mais demain dans le groupe A, les Nigériens à domicile tenteront de se relancer face à la Zambie. La Guinée essaiera de confirmer sa première victoire, mais ce sera dur face aux Nigériens. Évoquons à présent le championnat de Côte d'Ivoire, l'AS Tanda qui poursuit sa course en tête. Nouvelle victoire à l'extérieur hier sur la pelouse de l'Africa Sport, 2 buts à 1. L'AS Tanda qui compte un point d'avance au classement devant la SEC Mimosa. En Europe, place au 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain, décimé par les blessures, accueille José Mourinho et Chelsea pour la revanche de la saison dernière. Favori, le Bayern de Munich se déplace à Lviv pour jouer contre le Shakhtar Donetsk. En cyclisme, la Tunisie à l'honneur pour la première étape de la Tropicale à Missabongo. Rafa Chtioui de l'équipe Skydive Dubaï s'est imposé en solitaire hier entre Bongoville et Mohanda, 100 km bouclés avec 1 minute 49 secondes d'avance sur l'Algérien Abdelkader Belmoukhtar et le Français Giovanni Bernodo élu à 2 minutes 04. Le groupe des favoris est arrivé près de 3 minutes plus tard. La deuxième étape aura lieu tout à l'heure, 170 km entre Okomja et Franceville. Enfin, cyclisme moins rigolo, la rubrique justice. Lance Armstrong, banni à vie de toute activité pour dopage depuis 2012. Le champion américain a été condamné par la justice hier à verser 10 millions de dollars à l'un de ses ex-parraineurs. Privé de ses 7 victoires dans le Tour de France, Armstrong va devoir se plier à la décision d'une cour d'arbitrage du Texas. Alors on va écouter un peu de musique avec Stevie Wonder qui va chanter évidemment Superstition. Il était notamment honoré lors de la cérémonie des Grammy Awards. We'll be right back.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, vous êtes toujours à l'écoute de VOA Afrique, Le Monde aujourd'hui, la deuxième partie de notre émission ce mardi matin. Partons pour le nord du Nigeria où Boko Haram a distribué récemment des tracts avertissant les populations de s'abstenir de voter lors des élections du 28 mars. La sécurité est encore plus précaire dans la région et des familles fuient pour échapper aux violences. Chez Ruben Dorcil, des troubles sont aussi à craindre après la publication des résultats.
Du delta du Niger à l'extrême nord-est, la période préélectorale est devenue un moment de migration pour nombre de Nigérians. Notre envoyé spécial, Anne Luke, a rencontré plusieurs d'entre eux dans les rues de Kaduna.
Ma femme n'a pas cessé de me harceler depuis 3 mois. Même aujourd'hui, elle m'a appelé pour me dire « Sommes-nous prêts à nous déplacer vers un endroit plus sûr ?»
Personne ne veut mourir pour rien. Moi-même, j'ai l'intention de déménager dans la partie sud de Kaduna, où je ne serai pas exposé au bruit de guerre, aux tambours de crise, aux gens brûlant des pneus, aux gaz lacrymogènes et autres.
Le dernier vote à l'échelle nationale au Nigeria en 2011 a été salué comme plus crédible que toutes les précédentes élections. Mais plus de 1000 personnes ont été tuées, la plupart lors de violences post-électorales et surtout dans l'état de Kaduna où la politique a suscité des tensions communautaires. Les élections de 2015 promettent d'être les plus âprement disputées dans l'histoire du Nigeria. Le président Goodluck Jonathan et le parti au pouvoir, le PDP, sont confrontés à une forte opposition de l'APC et de son candidat, l'ancien dirigeant militaire Muhammadu Buhari. Les électeurs sont anxieux au sujet de la période post-électorale. Nous allons prendre notre temps, dit cet homme de Bauchi. Nous irons voter et nous allons rester à l'intérieur de nos maisons et nous allons examiner la façon dont le vote a lieu et l'issue de celui-ci. Mais certainement, nous devons voter. Le chef de la police du Nigeria a publié une déclaration ce mois-ci essayant de rassurer les électeurs et leur demandant d'arrêter leur migration vers d'autres régions du pays. Mais les incidents préélectoraux se sont accumulés. Des sièges de partis ont été attaqués à la bombe ou vandalisés. Des partisans de l'opposition disent qu'ils ont été agressés dans l'état de Rivers. Un kamikaze s'est fait exploser à Gombe alors que le président Goodluck Jonathan sortait d'un meeting électoral. La Commission électorale nationale indépendante a reporté les élections de 6 semaines, soit au 28 mars, après que les forces de sécurité ont dit avoir besoin de plus de temps pour combattre Boko Haram dans le nord-est et garantir la sécurité des élections.
Au Burundi, le collectif Campagne citoyenne Halte au troisième mandat se dit déterminé à poursuivre ses efforts pour que le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis 2005, renonce à briguer un troisième mandat. Dimanche, le conseiller présidentiel Willy Nyamitwe a déclaré à l'AFP que le président Nkurunziza a toujours dit que c'est son parti, le CNDD-FDD, qui choisira son candidat dans le respect de la Constitution. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de maître Armel Niongere du collectif Campagne citoyenne Halte au troisième mandat.
On avait écrit une correspondance à son excellence le président de la République. Donc on attend qu'il nous réponde par voie de la correspondance. Sinon, nous allons continuer à se battre contre le troisième mandat du président de la République. On a déjà lancé une campagne contre le troisième mandat. On a des activités déjà prévues. Et donc, on va se réunir pour voir les propos tenus par le porte-parole du président de la République, pour voir les stratégies qu'on devrait adopter pour cadrer et continuer notre campagne.
Mais selon le conseiller du président, c'est le CNDD-FDD qui choisira son candidat.
Que ce soit le parti CNDD-FDD, que ce soit les membres du conseil de sages, que ce soit quelle structure, nous allons continuer à montrer que le président Pierre Nkurunziza ne peut pas briguer un troisième mandat. Vu la constitution de la République du Burundi, vu les accords d'Arusha, vu l'esprit des accords d'Arusha, on voit que ça serait une violation flagrante de la loi.
Et au cas où le président briguerait un troisième mandat, qu'est-ce qui se passerait?
Je pense qu'il pourrait y avoir des difficultés dans la gestion politique au Burundi, puisqu'il y a beaucoup de catégories de personnes qui se sont exprimées sur le troisième mandat. Il y a surtout l'Église catholique, il y a certaines organisations de la société civile, certains partis politiques, il y a la population qui s'exprime via les médias. Donc, toutes ces catégories de personnes qui s'insurgent contre le troisième mandat du président de la République, je pense que le président devrait considérer cela comme une alerte de la population par rapport à cette violation de la Constitution.
Mais dans le camp du président, on dit que ce dernier n'a été élu au suffrage universel qu'une seule fois.
On dit, dans l'esprit des accords d'Arusha, que nul ne peut dépasser 10 ans. Est-ce qu'il n'a pas fait 10 ans au pouvoir? Est-ce qu'il n'a pas prêté serment deux fois? Donc, je pense que ça, c'est une interprétation des personnes qui veulent s'éterniser au pouvoir.
Maître Armel Niyonguere, il était joint à Bujumbura.
La Belle Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura et 107.1 à l'intérieur du pays. Et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
En République démocratique du Congo, le calendrier électoral a donc été publié la semaine dernière par la CENI. Les dates des différentes élections et le budget alloué font débat dans le Nord Kivu. Le point depuis Goma avec notre correspondant Primo Pascal Rudaigwa.
Selon Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du Parti libéral pour le développement PLD en sigle, les contraintes liées à la mise en œuvre du calendrier électoral 2015-2016 sont éloquentes et prouvent à suffisance qu'il y a un glissement en perspective pour qu'il n'y ait pas des élections présidentielles en 2016.
Sur le plan financier, déjà je vois le gouvernement en train de nous dire qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour organiser des élections. Et comme dans la Constitution, il existe une disposition qui dit que les autorités en place peuvent y rester jusqu'à ce que les nouvelles autorités soient élues, nous risquons d'avoir ce glissement savamment, intelligemment, préparé par la majorité présidentielle, au premier rang de quelle d'ailleurs le PPRD, et je pense que la population doit se préparer à barrer encore la route à cette manœuvre-là.
Réagissant à ces propos, le secrétaire exécutif fédéral adjoint du PPRD au Nord Kivu, Paluku Ezekias Muhaya, estime qu'il faudra laisser aux institutions en place de jouer pleinement leur rôle conformément aux prescrits de la loi.
Je ne voudrais pas qu'on prenne la place des institutions, parce que celui qui publie le calendrier s'appelle la CENI. Celui qui vient de publier la loi, il s'appelle l'instance présidence de la République. Et c'est le gouvernement qui a la charge de chercher les moyens. Donc je ne veux pas qu'on donne à la population l'impression que nous connaissons qu'il y a l'argent ou qu'il n'y en a pas. Et nous connaissons que si ça va arriver, que cela n'arrivera pas. Je ne veux pas qu'on prenne cette charge-là.
Le gouvernement provincial du Nord Kivu invite plutôt les uns et les autres à se préparer sérieusement aux prochaines élections et de cesser les polémiques inutiles. Marie Chematsi Baeni est le porte-parole de ce gouvernement provincial.
Le gouverneur de province a salué la promulgation de la loi électorale par le chef de l'État et la publication du calendrier électoral global qui vient mettre fin au suspense et procès d'intention qui régnait au sein de l'opinion.
Pour l'analyste politique indépendant Onesforce Matumba, le peuple devrait bien s'enquérir de pièges tendus par les politiciens congolais. Goma, Primo Pascal Rudaigwa pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
Direction Bamako à présent, la capitale malienne est loin d'être une ville exemplaire en matière de gestion des déchets. Pour y remédier, les pouvoirs publics ont signé une convention de 9 milliards de francs CFA par an avec une société marocaine. Ce contrat ne fait pas que des heureux, à commencer par les habitants de Nomobougou, village désigné comme site pour décharger les ordures de Bamako. Enquête à Bamako du correspondant de VOA Afrique, Kassim Traoré.
Bientôt plus d'ordures dans les rues de Bamako. C'est l'assurance donnée par le président directeur général du groupe Ozone lors de la cérémonie de lancement de la convention entre cette société marocaine et la mairie du district de Bamako. Aziz El Badraoui, PDG du groupe Ozone.
Le contrat prévoit la collecte des ordures ménagères et le transport et l'évacuation vers la décharge de Momobougou. Aussi le balayage manuel et le balayage mécanique par les machines des voies et des rues et des places publiques, ainsi que le lavage des places et des voies publiques. C'est un engagement, déjà il est contractuel, mais moi je promets au-delà de la prestation une qualité. Dans une semaine, déjà, on va voir les grandes places déjà propres.
La signature de la convention entre Ozone et la mairie du district de Bamako prévoit une ouverture pour les GIE d'assainissement de Bamako. Ces GIE n'ont pas été contactés jusqu'à présent par la société marocaine. Les maires du district pensent que cette situation ne doit pas créer un blocage, car c'est plus qu'un déficit de communication qu'un manque de considération pour les responsables des GIE d'assainissement. Adama Sangare Traoré ajoutera que la convention prévoit les GIE d'assainissement du district.
Au niveau de l'article 41, ça a été clairement dit qu'il faut nécessairement aller avec le personnel de la DECIVA, aller avec le personnel des GIE afin que cet acquis soit consolidé. Mais quelque part, dans la convention, il est stipulé que Ozone reste responsable de la qualité des prestations sur le terrain. Ozone reste responsable vis-à-vis de l'état du Mali et de la ville de Bamako. Donc à ce niveau, Ozone a dit, si c'est dans ce cadre-là, je souhaite prendre les responsables des GIE, voir dans quelle mesure je vais leur confier des responsabilités et recruter le personnel du GIE. Donc il faudrait nécessairement que cette ouverture d'esprit, ce dialogue continue.
L'autre difficulté à laquelle est confrontée la société Ozone, si l'État a construit à coup de milliards la décharge de Noumoubougou, village situé à une trentaine de kilomètres de Bamako, sur la route de Kouloukourou. La population de cette localité ne veut pas que leur village soit transformé en décharge d'ordures de Bamako. Abdoulaye Koulibaly, élu local.
Le site se trouve dans la cité, c'est dans la ville. Ça, c'est une des raisons. Ensuite, compte tenu de sa proximité avec la rivière qui passe à côté et les maisons qui sont à côté, nous trouvons maintenant que vraiment, actuellement, la décharge-là n'a plus sa raison d'être à Noumbou. Un grave danger. Preuve en est que l'autre jour, quand les 35 camions qui ont déposé des déchets sur le site là-bas, ce jour-là, le village de Tienfala de Noumbou ont eu beaucoup de problèmes parce que ça a dégagé une odeur nauséabonde.
La population de Noumbou est réticente. Elle souhaite la délocalisation de ces sites vers un autre lieu. Pour le moment, les Bamakois suivent de près les actions de la société marocaine qui a un contrat de 9 milliards de francs CFA par an pendant 8 ans au Mali. C'est une première. Espérons que la capitale malienne devienne propre comme le souhaitent les autorités. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Oye, parkani tokani bikani nukurugu duriya ngokuniye, parkani yendeliye, bikani yendeliye.
J'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok. Dans la salle un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok. Et hey papa, tu aurais pu voir aujourd'hui. Homme fier, quelqu'un qui se pose dans la vie.
L'en veut à elle,
eux ils m'en veulent à la mort. Sans toi elle n'est pas belle, est-ce qu'on sort? Prêtez le score, sans toi mon fort. Ici rien n'est hors, please give me le saumon. J'ai mes démons, où es-tu ange? Rien n'est beau, rien n'est bon, plus rien ne change. Dans mes souvenirs, je n'ai pas ton visage. Quel que soit le songe ou le mirage, je perds la raison, ou je pète les plombs. Derrière ma tête, je fais
dans ta tête, c'est lui qui donne. Le feu qui brûle en toi et la musique qui résonne. Il a sûrement voulu avoir un petit gars comme toi, comme toi, comme toi. Mais qu'est-ce qui sonne dans ta tête, c'est lui qui donne. Le feu qui brûle en toi et la musique qui résonne. Il a sûrement voulu avoir un petit gars comme toi, comme toi, comme toi. Dans la salle un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok. Dans la salle un écho, devant moi un micro. Dans mon rêve j'ai mon père à mes côtés, écoutez donc c'est ok. Don't stop, Frankie, Frankie, don't cry, please God bless me. J'ai pas de père, j'ai pas de père. Je vais pas me taire, je vais tout faire sauter. Jusque là je sais que j'ai pu faire le minimum. Avec toi, j'atteindrai le summum. Ton esprit, mon kingdom. Ta culture pour ma réforme.
Ainsi va le monde aujourd'hui. La mise en onde était assurée par Anne Albertson, Nicolas Pineau à la présentation. Excellente journée à tous. Avant de se quitter, saluons Ghislain Agbazaou à Cotonou au Bénin et Nelson Augustin au Gonaïve, c'est en Haïti. Comme retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.